Les élèves latinistes-hellénistes du collège Gassendi vous invitent à écouter la présentation du projet « Fleur, dis-moi ton nom ». Il y aura 3 enregistrements des élèves latinistes-hellénistes à la radio Fréquence Mistral. Le jeudi 23 mars, le groupe des 4e ira enregistrer des capsules mythologiques liées aux arbres et aux arbustes. Le jeudi 30 mars, le groupe des 3e, à son tour, ira enregistrer des capsules traitant des plantes médicinales. Durant la semaine de la nature, entre le 24 et le 29 mai, une visite au jardin de Salagon sera organisée par Madame Tsangara Kisami, professeure de latin grec. Au mois de juin, une exposition des herbiers de chaque élève sera présentée à l'entrée du collège Gassendi à Digne-les-Bains.
Chers auditeurs, regardez un peu vers le ciel où les frondaisons des arbres changent de couleur. Aujourd'hui, nous allons parler des arbres et des arbustes. En effet, les Romains et les Grecs connaissent bien les arbres de notre entourage. À la plupart, ils vouaient un culte qu'ils justifiaient en leur attribuant une incarnation divine. Le châtaignier, la châtaigne, était le gland de Zeus. Le chêne, arbre de Zeus, Jupiter, dieu du tonnerre, couronne des chênes pour les guerriers valeureux. Un grand nombre de ces arbres sont connus des Romains, qui n'en connaissent souvent que les fruits. Ces arbres n'étaient pas indigènes. Voir ceux qui sont répandus tardivement, d'autres fruits sont issus d'une cueillette dans la nature et ne semblaient pas faire objet de culture. Les Romains étaient cependant de grands agronomes qui maîtrisaient très bien le système des greffes et de macrotage, ce qui leur a permis un laps de temps, parfois très bref, de générer un nombreux variétés. Chers auditeurs, écoutez ensemble ces belles variétés.
L'épicéa est le conifère aux multiples symboles. Dans la mythologie grecque, l'épicéa est dédiée à Artémis, déesse de la lune et de la vie sauvage, protectrice des femmes qu'elle assiste aux accouchements. L'épicéa est l'arbre de la naissance. Chez les Celtes déjà, le sapin était l'arbre de la naissance. Sa taille, évoquant l'entêtement, forçait l'admiration. Le sapin s'implante dans les lieux les moins hospitaliers sur les versants ombragés des Alpes. Les arbres les plus hauts d'Europe s'implante dans les lieux les moins hospitaliers sur les versants ombragés des Alpes. Les arbres les plus hauts d'Europe sont les sapins. En haute montagne, ils enserrent les rochers de leurs vigoureuses racines et contribuent ainsi à notre sécurité en formant une forêt protectrice. De même, les majestueux sapins isolés, taillés par le climat, qui dans la solitude des hauteurs bravent les tempêtes glaciales, ont souvent offert à de nombreux randonneurs un abri contre l'orage et un peu de bois pour faire un bon feu. Puissant conifère, le sapin dont les aiguilles restent toujours vertes, il est un symbole de protection et de force vitale. La tradition chrétienne a fait revivre ce symbolisme dans le sapin de Noël, signe de la naissance de Jésus-Christ.
Le sol, l'arbre de la lune, de la femme ou de l'eau. Son nom latin est Salix. Pour les Grecs anciens, il est l'arbre auquel était suspendu le berceau de Zeus sous la surveillance de sa nourrice Ithéa. Ithéa signifie le sol. Il est également associé à Hécate, la sorcière, Circé, la magicienne, Héra et Perséphone. Toutes représentent de la mort de la triple déesse lune. Les feuilles sont caduques, elles tombent, alterne ou ovale ou lancéole. Les fleurs sont réunies en chatons dressés, mâles ou femelles, portés par des pieds différents. Chaque fleur est portée par un nectar qui correspond à périanthe et est protégée par un bractée cilicée. La fleur mâle, minuscule, comporte 2 à 5 étamines. La fleur femelle ne comprend qu'aucun seul ovaire. Uniculaire, mais 2 carpelles. Les fleurs femelles fécondées forment des capsules à 2 valves qui libèrent des graines cantonneuses. Les sols peuvent être anémorphes, pollinisé par le vent, ou anthémochore, pollinisé par les insectes. Voilà, vous n'êtes plus seul avec le sol.
L'olivier, arbre mythique ou politique. L'olivier, arbre que les anciens grecs avaient consacré à la déesse Athéna et dont ils avaient fait le symbole de la sagesse et de la paix. Pendant un temps, on n'employa que des vierges et des hommes pour le cultiver. Et dans quelques contrées, on exigea un serment de chasteté de ceux qui récoltaient les olives. L'aéropage nommait des inspecteurs chargés de surveiller les plantations et juger les délits commis contre l'arbre sacré. Chez les Romains, les possesseurs d'oliviers ne pouvaient pas en disposer pour des usages profanes. Celui qui en atterrait un pied dans un bois consacré à Minerve, l'équivalent romaine d'Athéna, était puni d'exil.
Le lierre ou la laisse, soyez tout oui. Les Ménades sont à l'origine de Dionysos, puis le nom des femmes qui suivirent le dieu pendant sa marche triomphale de Lydie jusqu'en Grèce. Elles portent le nom des Thyades quand elles forment le cortège rituel du dieu de la vigne et du vin lors des fêtes dionysiaques. On les représentait souvent couronnées de lierre, tenant à la main le thyrse, bâton terminé par une pomme de pin, et portant l'anébride, vêtement en peau de bête. Elles sont aussi appelées bacchantes chez les Romains. Les Ménades tuèrent Panthée et Thèbes qui les avaient espionnées et démembrèrent Orphée qui les avait méprisées. Suite à ce crime, Dionysos les aurait changés en arbres.
Le noisetier ou coudrier. Écoutez, chers auditeurs, vous le saurez. Chez les Grecs, la mythologie du coudrier est directement liée au dieu Hermès. En effet, le messager des dieux était doté d'un attribut, le caducée, devenu emblématique des cordes de santé en Occident, généralement représenté par deux serpents s'enroulant autour d'une branche. Les avis divergent sur la composition de cette branche. Certains spécialistes considèrent qu'il s'agit d'une branche d'olivier, d'autres d'une branche de coudrier. Mais il faut noter que le nom botanique du coudrier, Corylus, est la traduction du mot casque, pétasse. Et qu'il est un Hermès était considéré comme le dieu des savoirs cachés et sa baguette possédait le pouvoir de faire passer les hommes d'un monde à l'autre. Elle était le transmetteur des messages venus du cœur de la terre. Le caducée ne deviendra que plus tard le symbole de la médecine, entre les mains d'Asclépios, Esculape, l'habile médecin de l'Iliade. Or, on prête de multiples vertus à la baguette du coudrier, capable, selon les traditions, de soigner aussi bien l'impuissance, la calvitie, l'épilepsie, la folie, les luxations, les fractures, les maux de dents, les verrues et les hémorragies.
Chez les Romains, un chêne planté devant la maison était regardé comme protecteur. C'est à cet arbre qu'il suspendait les dépouilles des ennemis vaincus, à imitation sans doute de ce qu'avait fait Aîné après avoir tué Mésence. Les ambassadeurs romains prirent les chênes à témoin que les Éques avaient rompu l'alliance. Les consuls Domitius et Dolabella ayant établi un concours pour les poètes, le feuillage du chêne servit à tresser les couronnes décernées au Capitole à ceux qui avaient mérité le prix. Le même genre de récompense avait été accordé à celui qui avait sauvé la vie d'un citoyen. Gellius proposa au Sénat d'en donner une à Cicéron, qui, en dévoilant la conjuration de Catilina, avait sauvé non seulement un citoyen, mais la patrie. La délation qui corrompt tout profana dans la suite les couronnes civiques en les décernant aux tyrans, car on trouve des médailles de Caligula avec le gland et l'inscription « Obs pives servatos » de Vespasien, avec la couronne de chêne et la légende « Libertate populi Romani restituta » ou « Adsertori libertatis publicae ». Les Celtes révéraient Esus dans les chênes, la divinité suprême, un culte qui s'est perpétué en France jusqu'au XIIe et XIIIe siècle.
Le laurier ou arbre d'Apollon, auditeurs, soyez dans le sacré. Le laurier est un arbre consacré à Apollon, soit parce que Daphné, qu'il avait aimé, fut changée en laurier, soit parce que les feuilles de cet arbre servaient à tirer des présages. Le trépied d'Apollon est très primitivement fait de bois de laurier, où c'était près d'un laurier, tenant au sol par trois racines, qu'on rendait les oracles. La pitié, les devins de toutes sortes, ceux qui consultaient les dieux sur l'avenir ou qui faisaient des expiations, portaient du laurier. On en brûlait dans les temps où l'encens n'était pas encore connu. on se servait du laurier dans les enchantements et de ses feuilles, on composait des guirlandes pour orner la tête des victimes. Non seulement Apollon, mais Esculape, Vulcain, Hercule, Vesta, Janus et les dieux pénates furent représentés couronnés de lauriers.
Le cyprès est si lointain et si proche de vous, auditeur. Un chasseur nommé Cyparis, ami d'Apollon, tua sa biche par erreur. De chagrin, il se métamorphosa en cyprès. Dès lors, les cyprès veillent sur les morts. Ils sont consacrés à Hadès, dieu des morts. De leur bois, on faisait les cercueils des guerriers morts pour la patrie. Le bois de cyprès, imputrescible, est utilisé en charpente de temple. La flèche d'Eros était aussi en cyprès. La tradition recommandait de planter un cyprès à la naissance d'une fille. À son mariage, l'arbre est abattu et exploité.
Le tilleul est un arbre mythique. Écoutez, il est magique. L'arbre d'Apollon, le demi-dieu, s'éprend de la nymphe Daphné, qui lui échappa en se transformant en laurier. Le nom grec du laurier est Daphné. Au jeu pythique, à Delphes, en souvenir du serpent, Python, qu'Apollon terrassa, les vainqueurs recevaient une couronne de laurier. Illyra, tilleul en grec. Mère du centaure, Chiron, honteuse de son fils, mi-homme, mi-cheval, demanda à être métamorphosée et le fut en tilleul. Chiron, avec ses dons d'oracle et ses connaissances des simples plantes médicinales, fut un célèbre guérisseur, personnifiant toute la quintessence du tilleul. C'est un arbre qui guérit et c'est aussi celui de l'attachement des êtres. Le mythe de Baucis et Philémon, dans la Grèce ancienne, illustre la croyance que le tilleul, représentant la fidélité, permettrait de trouver l'amour. Repris dans les Métamorphoses d'Ophide, il évoque un couple très âgé, Philémon et Baucis. Seuls à l'offrir hospitalisé aux dieux déguisés en simples mortels, Jupiter et Mercure, pour les remercier, il leur proposa d'accomplir leur souhait, celui de mourir en même temps et les transformant en arbres moitié tilleul, moitié chêne avec un seul tronc.
Le pommier, pomme de rainette ou pomme d'api, mais écoutez plutôt. Quel fruit Ève offrira-t-elle à Adam ? Pomme, figue ou orange, nous ne le saurons jamais. Chez les Grecs, les pommes d'or du jardin des Hespérides constituent le secret de la beauté et de l'immortalité des dieux qui en consommaient. Poemon est la déesse des fruits. Les ancêtres des pommes européennes furent ramenés du Péloponnèse par le romain Glaudius Appius à qui on dédia la pomme d'Api. N'oublions pas aussi cette pomme de discorde. Engendra la contestation entre Héra, Aphrodite et Athéna, puis le jugement de Paris entre afin, par contre-coup, l'enlèvement d'Hélène et la guerre de Troie. Mais il ne faut pas avoir de l'aspect négatif de cette personnification, car il ne faut pas oublier que c'est elle qu'Héraclès choisit lorsque rencontre deux femmes au début de ses exploits, car elle est aussi la personnification de l'émulation. De même, Zeus va faire appel à ses services lors de la guerre de Troie pour animer l'ardeur des guerriers grecs.
Pain noir, pain blanc, cela dépend. L'art de Poséidon, il pousse au bord de la mer, la nymphe Pythis, convoitée par Pan, lui échappa en se métamorphosant en pain noir. Au jeu ismique, les vainqueurs reçoivent une couronne de pain. Son bois sert au bateau de commerce. Dans la résine, on extrait soit le calfa pour étancher les coques de bateau, soit un additif qui conserve les vins tout en les aromatisant.
Aubépine, plante féminine. Écoutez plutôt. Son nom latin, Crataegus oxyacanta. À travers la plante immaculée, se manifeste la femme triomphatrice du serpent et de Déméter païenne, maîtresse des germinations et des renaissances. Dans la Grèce antique, l'aubépine était consacrée à Hymen, divinité de l'amour et du mariage. L'aubépine, dédiée à Maïa, mère d'Hermès fêtée en mai de Maïa. Les mariés emportaient une branche à leurs noces. Placée autour du lit, elle assurait la fertilité du couple. Autour du berceau, l'aubépine protégeait l'enfant des mauvais esprits. Les bienfaits de l'aubépine régulent l'activité cardiaque. Elle est utilisée pour aider à trouver un meilleur sommeil, diminuer les tensions et l'irritabilité. Elle soutient la circulation. L'aubépine est l'une des plus anciennes plantes utilisées pour ses vertus thérapeutiques. Depuis la christianisation de l'Europe, l'aubépine est associée à l'image de la Vierge Marie et du Christ. Ses fleurs blanches symbolisent la délicatesse, la pureté et la beauté. C'est la fleur du mois de mai et du renouveau.
Le peuplier est-il populaire ? Son nom provient du latin populus. D'après les légendes grecques, le peuplier était consacré à Héraclès. Lorsque le héros descendit aux enfers, il se fit une couronne de rameaux de peuplier. Le côté des feuilles tourné vers lui resta clair, le côté tourné vers l'extérieur prit la couleur sombre de la fumée. De là vient la double couleur de ses feuilles, et c'est sur cette différence qu'est fondée la symbolique du peuplier. Il signifie la dualité de tout être. Observation amusante, cet arbre qui pousse sur les terrains humides sert aujourd'hui à fabriquer les allumettes eau et feu. Les Héliades, sœurs de Phaéton, qui avaient confié sans autorisation à leur frère la conduite du char solaire, furent transformées en peupliers. Une Hespéride également fut changée en peuplier pour avoir perdu les pommes du jardin sacré. Le bois de peuplier blanc était le seul dont il fut permis de se servir lors des sacrifices offerts à Zeus. Hadès transforma Leucé en peuplier qu'il plaça à l'entrée des enfers pour garder auprès de lui cette mortelle qu'il aimait. Cet arbre apparaît également lié aux enfers, la douleur et aux sacrifices ainsi qu'aux larmes. Arbre funéraire, il symbolise les forces régressives de la nature, le souvenir plus que l'espérance, le temps passé plus que l'avenir des renaissances. Le peuplier blanc était connu dès la plus haute antiquité. On l'a toujours beaucoup cultivé ainsi que le noir pour servir d'appui à la vigne. On le plante ordinairement en quinconce afin de donner par cette disposition plus d'accès à l'air et plus d'agrément à la vue. Cet arbre offre dans ses bourgeons un sucre visqueux, basalmique. Les chevaux, les chèvres, les moutons et même le gibier mangent ses feuilles. Les grêtes molles et soyeuses des semences est un tendre duvet dont les oiseaux garnissent l'intérieur de leur nid. Le peuplier blanc a toujours été consacré au temps parce qu'on a cru voir dans ses feuilles toujours agitées et montrant alternativement un côté blanc et un côté brun de l'analogie avec la succession des jours et des nuits qui se mesurent et divisent le temps.
La vigne est le symbole du bassin méditerranéen. Écoutez bien son histoire. La civilisation de la vigne s'est établie d'abord dans le bassin méditerranéen oriental, apportée par les Phocéens à Marseille au VIe siècle avant Jésus-Christ. Elle suivra plus tard la route des conquêtes romaines. On pourrait s'étonner de trouver la vigne dans les arbres mythiques des Celtes, mais les Celtes étaient établis aussi en Turquie, Galate. De plus, la feuille de vigne est un motif important dans l'art de l'âge du bronze britannique. Il est probable que des assimilations plus tardives entre le raisin et la mûre, fruit de la ronce, se produisent. Dans l'ancien Moyen-Orient, le vin était la boisson des dieux. La vigne a sans doute été identifiée comme l'arbre de vie du paradis. La vigne, c'est Israël et son peuple, la propriété de Dieu. Par la suite, ce symbolisme se transférera sur le Messie. Le vin devint le sang du Christ. Ce n'est pas par hasard que Noé, en initiant un nouveau cycle, fut le premier à planter la vigne. Pour les Grecs, sa culture est très postérieure au blé et elle est associée à un dieu récent, Dionysos, expert de la connaissance de la vie après la mort.
Le platane ou la main divine. Le platane est associé à Gaïa, déesse de la mer, de la terre chez les Crétois et les Grecs, et à Tani, déesse de la fertilité chez les Carthaginois, car sa feuille en forme de main est la manifestation de la présence divine. C'est le symbole de la régénération. L'écorce se régénère par plaques, comme la peau du serpent. Il servit à construire le cheval de Troie.
Le grenadier est-il explosif ? Perséphone était la fille de Zeus et de Déméter, ou selon d'autres sources, la fille de Zeus et de la nymphe Styx. On l'appelait aussi Coré ou Cora, c'est-à-dire la jeune fille, ou Perséphassa. On la retrouve chez les Romains sous le nom de Proserpine. Elle formait avec Déméter le groupe des grandes déesses vénérées à Éleusis. Elle épousa Hadès contre son gré et devint la reine des enfers. Mais Hadès l'aperçut, il décida d'en faire sa reine des enfers et de l'enlever avec la tacite complicité de Zeus. Alors qu'elle était en train de cueillir des narcisses un peu à l'écart de ses compagnes dans la plaine d'Héna, la terre s'ouvrit et Hadès en surgit sur son char tiré par ses magnifiques chevaux bleu nuit. La nymphe Cyanée tenta de s'interposer, mais d'un coup de sceptre, Hadès disparut de la surface de la terre. Cyanée fondit en larmes
et fut changée en fontaine ou en lac. Déméter la chercha partout sur la terre pendant 9 jours et 9 nuits, puis déchaîna une terrible famine. Hélios, qui voit tout, lui révéla finalement que si elle n'était pas sur terre, il se pourrait bien qu'elle fût aux enfers. Mais Hadès refusa de la restituer, alors Déméter quitta l'Olympe et cessa de faire fructifier la terre. Zeus fut alors obligé de tenter une conciliation et conseilla à son frère de rendre Perséphone à sa mère avant que la terre entière ne soit complètement morte de faim. Il envoya Hermès porter le message à Hadès. Ce dernier fut d'accord, à condition qu'elle n'ait pas encore goûté de la nourriture des morts. Et comme Perséphone affirmait qu'elle n'avait rien mangé depuis son enlèvement, Hadès, contraint de dissimuler son dépit, la renvoya vers sa mère.
Bonjour, je prends la suite de lecture du mythe sur le grenadier. Les larmes de Déméter cessèrent de couler, mais juste au moment où Perséphone se mettait en route pour Éleusis, un des jardiniers d'Hadès, du nom d'Ascalaphos, témoigna qu'il l'avait vu cueillir une grenade et en manger un ou sept grains. Ascalaphos, fils de l'Archéron, regretta amèrement ses paroles puisque Déméter le changea en chouette ou le bloqua sous une pierre. Perséphone avait mangé la nourriture des enfers. Elle devait y rester. Toutefois, Zeus, conscient de l'avenir de la terre et ne voulant pas contrarier son frère Hadès ni sa sœur Déméter, proposa à Perséphone de passer 6 mois de l'année aux enfers et 6 mois sur la terre, reproduisant ainsi le cycle des saisons, été et hiver. C'est ainsi que la petite jeune fille qui aimait cueillir des fleurs sous le soleil de Sicile devint la redoutable reine des enfers. Perséphone semble avoir finalement accepté son rôle de déesse des enfers car, dans les légendes, elle agit toujours en accord avec son époux. Assise à côté du trône, elle tient un flambeau ou parfois un pavot dont les vertus soporifiques symbolisent le sommeil annuel de la nature et se montre sévèrement sévère et inflexible.
Le framboisier aux multiples vertus va vous envoûter, mais écoutez plutôt. Le framboisier a pour nom latin Rubus Idaeus L. Rosaceae. Le framboisier est connu depuis l'Antiquité et la mythologie. Nous apprend comment la framboise, jadis blanche, est devenue rose. Zeus fut caché en Crète par sa mère qui craignait que son père Cronos ne les dévore. La nymphe Ida, fille du roi de Crète et nourrice de Zeus, voulut cueillir des framboises pour apaiser les pleurs de son protégé. Des pleurs qui pourraient attirer l'attention de son père. Mais en cueillant des fruits, elle s'égratina le sein et le sang de la blessure teinta la framboise en rose, couleur qu'elle gardera. Au niveau historique, la plus ancienne référence botanique au framboisier nous vient de l'historien antique Pline, qui le cite dans son ouvrage Histoire naturelle à la suite des ronces, elles aussi de la famille des Rosaceae. Le Rubus Idaeus est ainsi appelé parce qu'il n'en vient pas d'autre sur le mont Ida. Il est plus tendre, plus petit, moins garni de branches et moins piquant. Et il croît à l'ombre des arbres. On l'a fait pendre dans l'eau pour les affections de l'estomac. Le framboisier gardera son nom de ronce du mont Ida lorsque Carl von Linné le décrira 1700 ans plus tard. Le framboisier n'est plus présent aujourd'hui sur le mont Ida dont toutes les forêts ont été coupées, mais il ne l'a peut-être jamais été car il est absent de la zone méditerranéenne. On le trouve dans toutes les montagnes d'Europe, dans les conditions décrites par Pline, en lisière et dans les bois clairs. C'est à partir de ce framboisier sauvage que seront créées les multiples variétés dès le XVIe siècle. Les fruits sont alors cultivés pour les parfums, pour la fabrication de boissons ou de remèdes. Le plus célèbre reste le vinaigre de framboise, utilisé aujourd'hui pour les vinaigres, pour les viandes, mais jadis comme remède pour soigner les angines en gargarisme. Cette utilisation se justifie par les propriétés astringentes et anti-inflammatoires de la plante que l'on retrouve aussi dans ses feuilles récoltées pour l'herboristerie.
Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir partagé ces quelques mythes avec vous. N'oubliez pas, nous avons un dernier rendez-vous le jeudi 30 mars à partir de 8h30 pour vous raconter les mythes liés aux plantes médicinales. Les latinistes hellénistes et leur professeur Madame Sangaraki Sami du collège Gassendi vous remercient pour votre fidélité. A bientôt, merci à Fréquence Mistral sur 99.3.
Merci à vous, bonne journée.